France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Alors c'est en faisant des moonwalks qu'ils sont rentrés dans le studio frais et dispo, qu'ils se sont installés autour de la table des informés de France Info, où nous trouvons ce soir Laura Slimani. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes une des porte-paroles, on peut dire ça comme ça, ou voix, comme vous vous définissez?
Oui, voix, porte-parole, membre du conseil politique, voilà. Je soutiens Benoît Hamon.
Benoît Hamon, voilà, on va aller jusque-là, on va dire, c'est surtout ça qui est important. Donc vous soutenez Benoît Hamon, également à vos côtés, il y a Sylvain Courage-Lox, bonsoir.
Bonsoir.
Yannick Halimi du Parisien aujourd'hui en France, bonsoir. Bonsoir. Et l'écrivain André Bercoff, bonsoir.
Bonsoir.
Et ce soir, quatre débats qui font une ligne entière à Tetris. Hein. Bachar el-Assad a beaucoup de mal avec la France. Benoît Hamon et son ancien de candidature façon France Info. Emmanuel Macron ne chantera pas le temps des colonies de Michel Sardou. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Mais qu'est-ce qui se passe d'un coup? C'est vrai, qu'est-ce qui se passe? Emmanuel Macron fait polémique, hein. Et on parle même pas du 49-3. Eh ben non, lui qui s'était fait une spécialité de faire plaisir à droite et à gauche se retrouve au cœur d'une polémique sur la colonisation. Alors c'est pas des plus modernes, hein, pour un progressiste. De passage à Alger, l'ancien ministre de l'économie a déclaré « Je pense qu'il est inadmissible de faire la glorification de la colonisation. Certains, il y a un peu plus de 10 ans, ont voulu faire ça en France. Jamais vous ne m'entendrez tenir ce genre de propos. J'ai condamné toujours la colonisation comme un acte de barbarie. Je l'ai fait en France, je le fais ici. » Alors des propos qui ont fortement fait réagir à droite et à l'extrême droite. Et le candidat de En Marche trouve des soutiens inattendus, et notamment celui de la ministre du Logement, Emmanuelle Cosse.
Moi, j'utiliserai pas le terme de crime contre l'humanité parce que c'est une notion juridique très particulière et je pense qu'il faut utiliser les bons mots au bon endroit. Mais dire que la colonisation fait partie de notre histoire et que c'est une horreur de notre histoire, je pense qu'il faut le dire.
Est-ce que ça ne fait pas partie de ce sentiment de repentance?
Mais
de
ça
la
n'a
France
rien à voir avec la repentance. La France doit reconnaître ses erreurs comme ses gloires. Et la colonisation fait partie de ses erreurs, et y compris pas la seule, c'est pas les seules erreurs de la France, c'est celle aussi, je rappelle, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, des pays qui ont colonisé d'autres continents.
Voilà Emmanuelle Cosse, ministre du Logement, ce matin sur France 2. Laura Slimani, ses propos d'Emmanuel Macron, ils vous ont étonné ou finalement vous les trouvez finalement plutôt intéressants?
Moi je suis plutôt en accord avec ce qu'il peut dire sur le fait que la colonisation est effectivement en aucun cas à glorifier. Mais ensuite, moi, ce qui me surprend un peu, c'est qu'il tenait des propos complètement différents, notamment, je crois, dans son livre.
Dans son livre, alors je les cite juste, il y a eu des éléments de civilisation et des éléments de barbarie.
Voilà, où il était quand même plus nuancé. Donc moi, je me demande ce qui lui a permis de changer d'avis, comme sur beaucoup d'autres sujets. D'ailleurs, on voit maintenant qu'il faut parler à la Manif pour tous et à l'extrême droite. Et d'un autre côté, il est pour l'ouverture de la PMA aux couples de lesbiennes. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même chez lui la volonté d'essayer de trouver des soutiens un peu partout, sans une grande cohérence idéologique, sans grande cohérence d'idées. Je suis pas sûre que ça soit très bon pour le débat politique, et par ailleurs pas très bon notamment sur des sujets aussi importants que la colonisation. Et dans ces cas-là, si on est aussi tranché sur ce sujet-là, il faut faire des propositions. Comment on enseigne cette partie de l'histoire dans les écoles, voilà. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour sortir de ce que certains appellent le néocolonialisme, mais plus précisément des discriminations, etc. Bon, on l'a pas beaucoup entendu sur ces sujets-là.
André Bercoff, ça vous a étonné qu'Emmanuel Macron, d'un coup, fasse cette sortie?
Pas du tout. Il ne faut pas oublier qu'Emmanuel Macron est le premier politique transgenre que nous avons. Ah, il est transgenre, ça veut dire qu'il adopte toutes les couleurs. D'abord, je vais vous dire en deux mots, il est allé à la télé algérienne dire ça, pour moi, pour des préoccupations cyniquement électorales. C'est tout. Parce que dire là-bas, ce qui aurait été bien, c'est de le dire en France, pas de le dire en Algérie. Primo. Deuxièmement, la colonisation, comme tout, il y a eu des choses terribles, il y a eu des choses moins terribles. Et puis troisièmement, ça fait très juste 50 ans. Moi, j'aimerais qu'on arrête cette espèce de gignarderie et de repentance et qu'on regarde des pays. L'Algérie est un pays indépendant depuis 50 ans. L'Algérie est un pays adulte. L'Algérie est un pays qui a aujourd'hui ses propres problèmes de corruption, etc. Donc, Jugeons ce qu'on va faire, et puis c'est pas, c'est nos grands-parents, et puis surtout ne rejetons pas à chaque fois cette espèce de, mais vraiment, de masochisme de la repentance qui me paraît...
Alors ça, on va en parler dans un instant, mais c'est vrai, Jean-Yves Calimi, ce qui est étonnant, c'est que la position d'Emmanuel Macron, finalement, ce terme de crime contre l'humanité, ça rejoint des termes employés par certaines associations, finalement, les plus radicales par rapport à ce jugement sur la France et l'Algérie. C'est même pas forcément une position de gauche modérée, quoi.
Si on met de côté effectivement son changement de pied, si je puis dire, entre ce qu'il a écrit et ce qu'il a dit, si on met de côté ce qui peut apparaître comme une incohérence, comme vous le disiez, Laura, entre une sorte de position très ouverte sur les minorités, sur la PMA et ce qu'il a dit sur la manif pour tous, mettons ça de côté. En revanche, sur le dossier même de crimes contre l'humanité, je me suis renseignée un petit peu avant de venir. Les juristes ne sont pas tous d'accord. Il y a tout de même des juristes et des historiens, surtout, les deux, qui disent que la notion de crimes de l'humanité suffisamment contre large, alors je ne vais pas vous citer les termes, pour contenir la période de la colonisation, parce que barbarie, parce que torture, parce que travail forcé, parce que déportation de population. Michel Rocard, en 1959, avait fait à l'époque, déjà 1959, avant la décolonisation, un rapport public et ayant eu l'imprimatur de tout le monde sur 2 millions de déportés de paysans algériens. Donc, après, on peut dire crime pour l'humanité, contre l'humanité ou pas, c'est juridiquement, mais en tout cas, ça peut l'être. Ça peut être tout à fait sous-tendu et fondé sur une notion juridique.
C'est très joli le juridique, mais moi, alors j'aimerais vraiment, vous avez peut-être raison, moi j'aimerais qu'on définisse à ce moment-là Hitler et le génocide, pas seulement des Juifs, mais de millions, de dizaines de millions de gens, peut-être être comparé à ce que la France est en Algérie.
Mais non, mais le génocide, c'est aussi une notion qui est définie, définie juridiquement sur le plan international. Donc, c'est pas le fait n'est pas de mettre exactement les faits sur le même plan, mais c'est un moment donné, c'est un débat. Moi, je pense que le sujet, il se situe pas là. Il se situe sur quelles sont les réponses qu'on apporte aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on est pour ou pas des excuses? C'est un débat qui est intéressant.
On va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h10, c'est Édouard Marié.
Les électeurs écologistes disent oui à leur candidat d'Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, pour ouvrir un dialogue avec Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Ils étaient consultés par Internet, ils sont d'accord à près de 90% pour un projet de candidature commune à la prochaine présidentielle. La justice pourrait aller plus loin dans l'affaire Pénélope. Pour le moment, les soupçons d'emploi fictif ne peuvent être classés sans suite, dit le parquet financier. Le candidat de la droite ne change pas de ligne de défense. Il s'agit d'un acte de communication qui n'apporte rien de nouveau, selon lui. Je m'en remets donc désormais au seul jugement du suffrage universel, a dit l'ancien Premier ministre. Théo est sorti de l'hôpital aujourd'hui. Le jeune interpellé violemment il y a 2 semaines à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Sur les réseaux sociaux, ses proches ont écrit « On continue le combat ». La police a dispersé des manifestants à Bobigny ce soir. Ils voulaient participer à un rassemblement de soutien. Pierre Gattaz est relaxé. Le président du MEDEF était jugé aujourd'hui en correctionnel pour diffamation. Il avait comparé des militants de la CGT à des terroristes et à des voyous. La justice estime que ses propos n'étaient pas suffisamment précis pour être qualifiés de diffamatoires. Petite sparlataille géante en ski. La Française Tessa Worley est championne du monde du slalom géant. Premier titre en individuel pour l'équipe de France dans ces mondiaux de Saint-Moritz en Suisse. La skieuse du Grand Bornand monte sur la première marche du podium pour la deuxième fois de sa carrière.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons des propos d'Emmanuel Macron tenus en Algérie, comme quoi la colonisation est un crime contre l'humanité. Alors, Sylvain Courage, on a vu la droite et l'extrême droite vent debout contre les propos d'Emmanuel Macron. Éric Ciotti, qui dit qu'il faut que maintenant Emmanuel Macron fasse des excuses à la France elle-même. François Fillon également. Seul petit problème, c'est que François Fillon avait tenu finalement un discours presque similaire dans un quotidien réunionnais et lors d'un déplacement. Donc c'est un peu gênant, non?
Oui, apparemment, il y a des choses qu'on dit quand on est dans les anciennes colonies françaises ou dans les dom-toms et qu'on ne dit pas forcément quand on est à Paris. C'est peut-être ça qui explique aussi les propos d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, face à la polémique, il a essayé de corriger ses propos. Il a dit, voilà, je voulais être sur une ligne de crête.
Il a fait une petite vidéo d'ailleurs.
Voilà, sur son site. montrer que effectivement il fallait reconnaître la barbarie de la colonisation, mais ne pas tomber dans la repentance, qu'il fallait pas que les colons ou les descendants des colons se sentent insultés, encore moins les harkis.
Bien
enfin,
sûr.
Il essaie de moyenner, mais mine de rien, c'est quand même assez courageux de dire une chose pareille dans une campagne électorale. On voit ce qui lui en coûte de sortir de l'ambiguïté. Et moi, je pense quand même que les attaques de la droite sont caricaturales, alors que le propos de Macron comporte une grande part de réalité.
Jeannick Halimi.
Oui, j'ai vu la petite vidéo d'Emmanuel Macron. Il dit ni repentance, ni refoulé. C'est vrai qu'il y a une sorte de refoulé qui revient, si je puis dire, inconsciemment dans le débat politique depuis 60 ans, qui bloque les choses, qu'il y a une sorte de concurrence, hein, des histoires qui fait que...
Des mémoires victimaires.
Voilà, exactement, des mémoires victimaires. Mais cela dit, bon, c'est vrai qu'il tempère un petit peu ses propos, mais dans sa vidéo qui est peut-être sur la forme assez basique et assez scolaire, sa vidéo est très cohérente. Moi, je vous invite à l'écouter. Il ne change pas de pied du tout. Il est extrêmement cohérent. Il explique tout à fait ce qu'il voulait dire et il reste tout à fait sur cette ligne-là. Et je voulais juste rajouter pour répondre à André Bercoff, juste une chose.
Parce que
très rapidement, Jules Ferry, qui était un homme politique de la Troisième République, oui, plutôt de gauche, vous savez qu'il a été quand même très... très
c'est l'apôtre de la colonisation.
L'apôtre de la colonisation, comme vous le savez, en Tunisie et au Vietnam, qui disait que la politique coloniale de la France devait être fondée sur le fait que les races supérieures avaient un droit sur les races inférieures. Que c'était ça les fondements
à l'époque
de la politique coloniale à l'époque.
Donc c'était une parole de gauche, effectivement. Celle de Jules Ferry, honnêtement, je trouve pas que c'est très courageux, Sylvain. Je vais vous dire pourquoi. Il y a quelque chose qu'on n'en a pas parlé après l'histoire de colonisation et crime contre l'humanité. Il a dit dans cette même télé à Alger. Il a dit, les Français ont quand même amené la Déclaration des droits de l'homme, oui, mais ils ne l'ont pas lu. Oui. Voilà. Or, je signale que c'est quand même les Français, Victor Churchill et compagnie, qui ont libéré l'esclavage, qui ont arrêté l'esclavage. Il faut arrêter quand même vraiment cette espèce de chouinement.
Mais Victor Schœlcher, en effet, a permis l'abolition de l'esclavage, mais beaucoup de Français en ont profité aussi avant de l'esclavage. On le sait très bien.
Des esclaves. Pardon, juste un mot. Les traites des esclaves. Il n'y a pas eu que la traite des blancs. Il y a eu la traite arabo-arabe. Il y a eu la traite des noirs, etc.
Mais l'esclavage, c'est
insurgé par ailleurs.
L'esclavage, c'est les colonisateurs ne parlaient pas que de la France.
L'esclavage, c'est un sujet qui est différent de la colonisation, concomitant, mais qui pas exactement le même phénomène, de le rappeler. Mais par ailleurs, moi, je quand vous dites aujourd'hui le régime algérien, effectivement, aujourd'hui, l'avenir des Algériens, il est avant tout dans les mains des Algériens.
Exactement,
et évidemment, et aujourd'hui, le régime algérien est profondément destructeur, mauvais, et génère énormément de problèmes dans le pays. Mais ça n'est pas une raison pour ne pas regarder les conséquences de la colonisation, fois sociale, économique, mais aussi culturel, mais aussi dans la relation entre la France et l'Algérie, mais aussi dans la manière dont aujourd'hui les enfants issus de cette immigration et issus de l'Algérie et des anciens peuples colonisés ressentent leur place. Et quand on entend la violence des propos de la droite suite à cette soi-disant polémique, moi ça me choque profondément et je ne sais pas ce que ça révèle chez eux, mais ça m'inquiète.
Une dernière chose à propos d'Emmanuel Macron, c'est dans l'Obs, puisqu'il y a une grande interview d'Emmanuel Macron, Sylvain Courage, et alors là ce sont maintenant les propos donc sur la Manif pour tous, qui ont fait polémique, puisqu'il évoque des manifestants de la Manif pour tous qui auraient été humiliés. Alors, d'un côté, il y a la droite qui lui tape dessus, après il y a la gauche qui lui tape dessus, on a du mal un peu à avoir la cohérence, puisqu'avant il voulait tout le monde, il unifiait tout le monde, maintenant il se met tout le monde à dos.
C'est l'illustration de sa progression, ni droite ni gauche, qui est...
C'est
vrai que cette journée est quand même assez révélatrice.
Alors l'interview de l'Obs, elle a été recueillie par Jérôme Garcin, elle porte sur sa vocation littéraire, ses goûts littéraires, la culture, et au passage il a glissé cette phrase. Il faut savoir qu'elle a été enregistrée, elle n'a pas été relue, donc c'est vraiment les propos qu'il a tenus, ça n'a pas été réécrit, et voilà. Maintenant, il a voulu envoyer un petit signal pour dire, effectivement, je comprends que une partie de l'opinion française ait pu être choquée par le mariage pour tous, et ça vient après les propos sur la colonisation, donc fait taper dessus des deux côtés.
Oui, alors tout de même, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Sylvain et André Bercoff, et Sylvain Courage, sur le côté côté électoraliste de cette position. Si elle n'était qu'électoraliste, elle ne l'aurait pas faite maintenant ou il y a deux jours, alors qu'il se prépare à aller demain dans l'Empire, si je puis dire, dans le Sud-Est, hein, Carpentras, qui est une des terres
il y a beaucoup de pieds noirs.
De pieds noirs, et puis effectivement des gens qui sont plutôt à la droite de la droite. Donc quand on veut capter un électorat, certes de gauche, mais aussi de droite, on évite peut-être de faire ce genre de sortie.
Non, c'est pas calculé. Hein,
l'autre électorat. Non, c'est bien ce que je vous dis. C'est pas seulement électoraliste, c'est aussi quelque chose de réfléchi parce que les discours d'Emmanuel Macron en direction des ce qu'on appelle les minorités visibles est quelque chose de très pensé et de très construit. Ce n'est pas la première fois qu'il s'adresse à ces gens-là. On sait que dans les banlieues, et ce sont des élus républicains qui me l'ont dit, les jeunes des banlieues sont très sensibles au discours d'Emmanuel Macron.
Ça
pourquoi
reste quand même à prouver. Hein.
Parce qu'il non, n'a pas fait, il n'a pas fait de l'identité.
Oui, juste, très bien.
Je finis. Il n'a pas fait de l'identité le cœur de son discours. Et puis parce que la loi Macron qui libéralise les Uber et compagnie ont permis à beaucoup de ces gens-là d'entrer sur le marché du travail.
Alors, juste un petit mot, c'est très bien, je vois que Emmanuel Macron, ça va être le Che Guevara des banlieues, on le sent, ils vont tous être
égaux. Non, il ne veut pas faire la révolution.
Pardon,
alors,
juste un mot, je veux dire que simplement, moi, ce qui me gêne vraiment, c'est que il faut arrêter de considérer que ce type comme vierge et presque martyr, alors que Bank Rothschild, conseiller économique de François Hollande depuis le début, ministre de l'économie, et il n'est pour rien dans les merveilleux résultats de François Hollande. Non, il est vierge, il n'est pas là, Emmanuel Macron. Ça fait 5 ans qu'il est là depuis le 2012. J'aimerais simplement qu'il dise une petite part de responsabilité dans les merveilleux résultats du quinquennat Hollande.
Alors, on va continuer à en parler dans un instant, mais on va aussi aller un petit peu à droite justement à ce qui se passe, parce qu'il y a eu une décision ou une non-décision aujourd'hui finalement du parquet national financier assez importante, hein, puisque c'est vrai qu'on en parle beaucoup beaucoup aussi de François Fillon. Mais en attendant, l'info à 20h20, c'est Edouard Marquier.
Il y a eu quelques affrontements entre la police et des manifestants ce soir à Bobigny au nord de Paris, mais pas de dégâts. Rassemblement après la sortie de l'hôpital de Théo, le jeune interpellé violemment par la police il y a 2 semaines à Aulnay-sous-Bois. Sur Twitter, des proches du jeune homme écrivent « Le combat continue ». François Fillon dit s'en remettre au seul jugement du suffrage universel. Le candidat de la droite réagit après le bilan d'étape du parquet financier aujourd'hui. En l'état, l'affaire des soupçons d'emploi fictif ne peut être classée sans suite. L'ancien Premier ministre dénonce un acte de communication qui n'apporte rien de nouveau. Marine Le Pen pourra finalement tenir meeting dans le Jura. Le maire de la commune de Clairvaux-les-Lacs, près de Lons-le-Saunier, avait annulé la réunion pour des raisons de sécurité. Le tribunal administratif de Besançon annule ce soir cette décision qui porte atteinte aux libertés fondamentales. Le meeting aura lieu vendredi à 20h. Jean-Marc Ayrault répond aux États-Unis à propos du conflit israélo-palestinien. Pour la France, il n'y a pas d'autre solution que celle à 2 États. L'autre option à un seul État envisagée par l'administration Trump n'est pas réaliste, a dit le ministre des Affaires étrangères qui rencontrait son homologue américain aujourd'hui. C'est même un positionnement très confus et préoccupant. Cette fois, la médaille est en bronze pour Martin Fourcade. Le biathlète français termine 3e de l'individuel au mondial de Horfilzen en Autriche. Il a fait 2 photos-tirs, c'était beaucoup trop pour espérer le titre. La médaille d'or a été remportée par surprise par l'américain Lowell Bailey, 35 ans, 20 sur 20 devant la cible.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Laura Slimani, soutien de Benoît Hamon, Sylvain Courage de l'Obs, Yannick Halimi du Parisien aujourd'hui en France et l'écrivain André Bercoff. On l'attendait lundi et puis non, hein, mardi c'était sûr. Et puis non, mercredi on n'y pensait plus en nous disant que ça viendrait vendredi et en fait c'est arrivé ce matin à 9h30. Hein. Oui, c'est peu dire que la décision du parquet national financier concernant l'affaire Pénélope Fillon était attendue. On allait enfin savoir si le dossier était vide ou si un juge allait s'en saisir et maintenant c'est tranché. On verra plus tard. Voilà, hein. En précisant que l'affaire ne pouvait être classée sans suite et que les investigations se poursuivraient, le parquet national financier laisse la situation... Eh bien, un peu en suspens, hein. L'enquête pourrait continuer donc pendant toute la campagne, ne calmant pas la consommation de l'exomile des fillonistes. Bien au contraire, le député du Rhône Les Républicains, Georges Pénec.
Au final, le parquet nous dit déjà qu'il y a suffisamment d'éléments pour exclure l'hypothèse d'un classement sans suite. C'est quand même une information qui vient nous rappeler que la procédure judiciaire sera présente, quoi qu'on le dise, pendant toute notre campagne présidentielle.
Voilà, Georges Fenech, député Les Républicains, donc qui avait mené cette petite frondounette contre François Fillon cette semaine. Sylvain Courage, le parquet national financier, finalement, il a pris une décision, celui de ne pas décider. On a l'impression quand même qu'aujourd'hui, ça met tout le monde encore en suspense et encore plus, finalement, d'interrogation.
Ça s'appelle taper à suivre, oui. Ils envoient la balle très loin en attendant de voir comment les choses vont se résoudre ou non de manière, enfin sur le terrain politique. C'est assez classique hein, dans ces confrontations entre la logique politique et la logique judiciaire, que finalement on attend de voir ce que les urnes vont décider avant de trancher. Alors ça ne veut pas dire qu'ils peuvent aussi à un moment donné, là dans les jours qui viennent, considérer que il y a moyen et matière à ouvrir une vraie information judiciaire. Qui peut déboucher ensuite sur une mise en examen. Hein. Mais c'est curieux ce communiqué qui vient ouais. comme pour donner un élément d'information à la presse et à l'opinion, mais qui correspond à aucun acte de procédure.
Voilà. Alors Laura Slimani, c'est vrai que vous soutenez Benoît Hamon, bien sûr, mais c'est vrai que on a l'impression que cette affaire interroge même tous les candidats, puisque ce sont les questions qu'on pose. Est-ce que finalement le parquet national financier n'aurait pas dû être un peu plus avoir un jugement précis, parce que pour mettre de la clarté finalement dans un moment dans la campagne, quoi.
Oui, bah, moi, je suis pas là pour juger le parquet. Je pense qu'ils ont voilà des raisons pour faire ce qu'ils ont fait. Bon, après, je suis assez d'accord avec Georges Fenech dans le sens où je pense que ça veut dire quand même que on peut pas classer sans suite. Donc ça maintient cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de François Fillon, et au-delà de ça, moi je trouve que ça maintient aussi cette espèce de décalage absolu entre ces propositions qui sont quand même d'une violence sans nom sur les fonctionnaires et puis les salariés qui vont devoir travailler plus sans gagner plus, etc. Et puis d'un côté et de l'autre côté, on voit que il incarne une droite des privilèges. Donc je trouve que c'est quand même une position qui est difficile à tenir et qui fait beaucoup de mal au débat démocratique. Et aujourd'hui, Benoît Hamon, lui, a décidé aussi, enfin bon, d'ailleurs, c'était déjà le cas avant, mais de faire des propositions concrètes sur la vie démocratique, et la transparence aussi de la vie démocratique, transparence de des donateurs.
Elle
est très forte à faire aujourd'hui des propositions concrètes.
Mais justement, il y en a un qui en a parlé aussi. C'est pas un symbole, hein, parce que c'est quand même François Hollande aujourd'hui qui a fait une petite allusion, finalement, aussi aujourd'hui à la probité au sommet de l'État. Alors, juste une question aussi d'ordre vraiment politique. On l'a vu hier, François Fillon en meeting à Compiègne, qui a fait cette proposition donc d'abaisser la majorité pénale de 18 à 16 ans. Certains ont dit « Ah bah, il fait du Sarkozy ». Est-ce que pour vous, Nicolas Sarkozy est devenu directeur de campagne?
Il est devenu, je crois que c'est un journal du soir qui disait ça, il est devenu le Don Sarkozy, hein, c'est-à-dire un peu le parrain de la droite. C'est quand même très symptomatique.
C'est pas nouveau.
Est-ce qu'il n'était pas... Sauf qu'on pensait qu'il avait pris ses distances... Que voulais-je dire là? Vous m'avez.
Est-ce que finalement il est devenu directeur de campagne avec ce genre de réflexion?
Hier, donc, on a vu François Fillon. On n'a pas vu Nicolas Sarkozy aller au siège, par exemple, des Républicains et puis papoter avec François Fillon. François Fillon est allé déjeuner à rue de Miromesnil, c'est-à-dire
dans les bureaux. C'est ça.
Dans les bureaux de Nicolas Sarkozy. C'est quand même tout un symbole. Peut-être être à la manœuvre personnellement tout au début de l'affaire. Et puis on le voit avec Georges Fenech, c'est vrai que les Sarkozystes ont été particulièrement offensifs dans l'attaque, voire dans le putsch anti-Fillon.
Deux fois, d'ailleurs, ces dernières semaines.
Fillon a été. Non, juste un mot. D'abord, je voudrais revenir sur l'histoire justice par rapport aux questions posées par Sylvain Courage. Pourquoi, et vous-même, Jean-Mathieu, sur le parquet national financier.
C'est ça, ouais.
Mais il ne faut quand même pas oublier que le parquet national financier, en l'occurrence, est décision, il joue politiquement. Il faut quand même arrêter de se raconter des histoires. Le parquet national, il faut arrêter la séparation.
Pour vous, c'est pas indépendant.
Quoi? Mais vous rigolez. Décidé par François Hollande. La présidente est une amie intime de Christiane Taubira sur le conseil Christiane Taubira. À part ça, aucune idéologie, aucune tendance. Le plus important, c'est pas ça.
Oui.
C'est que là où François Fillon était nul, en tout cas sa communication nullissime, c'est que le parquet national financier n'a pas le droit, il pourrait vérifier, de se saisir juste après l'article du canard enchaîné sans qu'il y ait une enquête parlementaire.
André Berkoff,
illégal.
Je ne sais pas s'il est partial ou pas, le parquet, mais en tout cas, parmi ceux qui étaient encore une fois les plus offensifs et ceux qui voulaient véritablement dévisser François Fillon, c'était, je ne pense pas que ce fut la gauche, c'était à l'intérieur même du parti, dit-on les sarkozistes, puisque même Fillon a changé de stratégie. Il a parlé de coup d'État institutionnel, il a parlé de que tout cela venait de la gauche et de l'Élysée, il a très vite changé de position.
J'ai juste une dernière question sur François Fillon, parce qu'on en parle tous les soirs, donc il y a un moment on va essayer de faire court ce soir. Sylvain Courage, le fait de faire des propositions comme ça, on l'a vu également faire des propositions sur les étudiants étrangers, c'est vrai que François Fillon n'allait pas véritablement là-dessus tout de suite. C'est-à-dire qu'à un moment, il a besoin aussi de recentrer son camp autour de lui là-dessus.
C'est censé être des propos qui ressoudent l'électorat, le cœur de l'électorat de droite, et c'est vrai que c'est un grand classique. En plus, il y a eu autour de l'affaire Théo...
Qui se fait au détriment, encore une fois, des jeunes. Quoi. Enfin, c'est quand même hallucinant.
Et donc,
quoi.
Il essaye de donner ce signal. Alors, c'est vrai que c'est très sarkozien comme mode d'intervention.
Allez, dans un instant, on parlera de Benoît Hamon. Et oui, ça y est, son dossier de candidature, vous savez, on en fait toute la journée sur France Info. On parlera également, on partira en Syrie pour savoir ce qui se passe un petit peu là-bas avec une interview de Bachar el-Assad aux médias français. Voilà le programme à suivre des informés de France Info.
Février, moi, ça me déprime. La pluie, le froid, à 18h, il fait nuit.
Tu plaisantes, Antoine ? Phase finale de la Champions League et de l'Europa League avec Manchester United AS Saint-Etienne, Manchester City AS Monaco, les NBA All-Stars et l'Atlético Barça. Tu lui dois le respect au mois de février.
Oui, oui, c'est vrai, pardon.
Quand même !
C'est ça, la génération Beansport. En février, l'UEFA Champions League, l'UEFA Europa League, la NBA, la Liga et bien plus encore sont à vivre en direct sur Beansport. Faites l'essai, c'est sans engagement. Voir conditions sur beansport.com.
France Info Météo, avec VK, concepteur de fenêtres PVC, performantes et design, pour tous vos projets de construction et de rénovation. VK, VEKA.fr.
Et à Météo France, on retrouve Sébastien Léas.
La perturbation qui a circulé sur le pays aujourd'hui laissera encore échapper quelques pluies faibles et intermittentes demain matin, des Hauts-de-France au Grand Est et du Bourbonnais au Jura et aux Alpes du Nord. Sur les Savoies, un peu de neige est également attendue en moyenne montagne. L'après-midi, cette couche nuageuse va un peu se morceler et s'étendre jusqu'au Massif central et à la moyenne vallée du Rhône, mais les pluies vont se raréfier. Du centre-Val de Loire à la Normandie et la Bretagne jusqu'au Poitou-Charentes, les grisailles matinales seront fréquentes. Les brouillards vont progressivement se dissiper et les éclaircies seront belles l'après-midi, en particulier au sud de la Loire. Sur les régions les plus méridionales, la matinée sera parfois grise, notamment autour du golfe du Lion et dans la vallée de la Garonne. Mais l'après-midi sera très ensoleillé avec un peu de mistral. Au lever du jour, le mercure affichera 2 à 11 degrés et les maximales resteront au-dessus des valeurs de saison, grimpant entre 9 et 18 degrés.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Emmanuel Langlois, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. La pression judiciaire s'accroît donc sur François Fillon. Le parquet écarte en l'état un classement sans suite de l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif de Pénélope Fillon. Le candidat de la droite à l'Élysée parle d'un acte de communication qui n'apporte rien de nouveau. Quant à François Hollande qui a renoncé à la réélection le 1er décembre dernier, eh bien réussira-t-il à rester longtemps éloigné de la campagne ? Rien de si sûr. Pour le moment, le chef de l'État est discret, même s'il a reçu Benoît Hamon suite à son élection comme candidat du PS. À Rennes, où il était en visite ce matin, et alors que le parquet estime qu'il est peu probable que l'affaire Fillon soit classée sans suite, eh bien François Hollande a visiblement eu du mal à garder sa retenue. Julie-Marie Lecomte.
Alors, comment se passe la fin de votre mission ? Demande un habitant.
Il n'est pas fini.
Répond François Hollande en serrant des mains et en acceptant les selfies. François Hollande n'est pas en campagne, mais au détour d'une phrase sur la lutte contre la discrimination, il n'hésite pas à l'allusion.
La première volonté qui doit être... La nôtre, celle de l'État, c'est d'être exemplaire. L'exemplarité, ça vaut pour tout. Et si au sommet de l'État, il n'y a pas cette exemplarité, comment donner confiance ? Comment appeler à l'effort ? Comment donner une perspective à notre pays ?
François Hollande finit sa mission, défend son action et nouveau tacle pour François Fillon.
Souvent les mêmes qui demandent qu'il y ait le plus d'économies possible, qu'il y ait le moins de fonctionnaires, qu'il y ait le moins d'impôts. Alors, je vais vous faire une confidence. Ce n'est pas facile de maintenir les dotations avec moins d'impôts. Ce n'est pas facile d'avoir plus de services publics avec moins de fonctionnaires. Et ce n'est pas facile de promettre tout à tout le monde.
François Hollande tape à droite, à gauche. Il ne prend pas encore position. Ils sont comme une démangeaison. À Rennes, Marcos Darras, Julie-Marie Lecomte, France Info.
Les écologistes sont d'accord pour que leur candidat Yannick Jadot dialogue avec Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Au terme de 3 jours de vote électronique, près de 90% des militants écolos approuvent l'idée d'une recherche de convergence et de rassemblement. Ce sont les termes du sondage avec le candidat PS, celui de la France Insoumise. Un nouveau statut pour Paris et 7 métropoles supplémentaires. Le Parlement donne son feu vert définitif à l'un des derniers textes d'ampleur du quinquennat. Il prévoit notamment la fusion des 4 premiers arrondissements de la capitale aux grand dam des élus de droite. Le ministre de l'Intérieur, lui, Bruno Le Roux, réunit les préfets d'Île-de-France pour faire le point sur la situation dans les quartiers sensibles. Alors que la nuit dernière a été calme en banlieue, la réunion doit porter sur les relations entre la police et la population. À noter que le jeune Théo, 22 ans, grièvement blessé lors de son arrestation il y a 2 semaines, eh bien, il est sorti de l'hôpital aujourd'hui. Du football avec la phase finale de l'Europa League et ce match entre Lyon et les Néerlandais d'Alkmaar, eh bien, c'est l'OL qui mène 3-1. Les informés, ça continue sur France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et ce soir, ils sont à tantinet funky, voire lounge. Hein. Et autour de la table des informés de France Info, nous trouvons Laura Slimani, soutien de Benoît Hamon, Sylvain Courage de l'Obs, Jannick Halimi du Parisien Aujourd'hui en France et l'écrivain André Bercoff. Alors à France Info, nous ne prenons pas les choses à la légère. Quand une femme ou un homme souhaite devenir présidente ou président de la République, on l'ausculte d'abord. Limite si on ne lui demande pas une caution bancaire avant de prendre un bail. Oui, parce qu'en fait, avant de diriger France Info, notre directeur était agent immobilier. Voilà pourquoi nous avons lancé le dossier de candidature. L'idée est de décortiquer le programme, les envies, les soutiens d'un candidat pendant toute une journée. Et le lendemain, lorsqu'il sera ou lorsqu'elle sera interviewée, il répondra aux interrogations développées sur l'antenne toute la journée. Premier dossier de candidature, Benoît Hamon. D'ailleurs, qui sera demain l'invité à 8h30 de Jean-Michel Apathy. Alors, il est né le 26 juin 1967 à Saint-Rénan, dans le Finistère, signe astrologique cancer et chèvre de feu dans l'horoscope chinois. Député des Yvelines, amateur de revenus universels et de fronde parlementaire, il a remporté la primaire de la Belle Alliance Populaire. Alors, Benoît Hamon, c'est vrai qu'en ce moment, il fait campagne, mais aussi, il aimerait bien avoir des nouveaux amis. Ça semble bien parti pour Yannick Jadot. Mais Jean-Luc Mélenchon, eh bien, ce dernier préfère se choisir tout seul ses copains, Jean-Luc Mélenchon.
Qu'est-ce qu'on me demande ? Pas une candidature unique, c'est pas ça qui est proposé. Il ne faut pas faire semblant. C'est pas ça qui est proposé. Tous ont dit qu'ils présenteraient leur candidature. Mais quand bien même en faudrait-il une, laquelle ? Je propose la mienne.
Et voilà, donc Jean-Luc Mélenchon hier en meeting à Strasbourg. Alors, juste avant de parler de Jean-Luc Mélenchon, on l'a entendu ce soir, Laura Slimani, apparemment, donc les militants d'Europe Écologie Les Verts seraient pour le soutien donc de ce parti finalement à Benoît Hamon, ça vous rassure ?
Oui, même si je crois que la question c'était est-ce que vous êtes pour qu'on ait des discussions sérieuses. Donc voilà, mais oui, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle parce que et moi je pense que c'est bien que les écologistes aient fait ce processus qui correspond aussi à la primaire qu'ils ont organisée eux-mêmes. Et en même temps, il y a une telle cohérence, je trouve, sur le fond entre les propositions que peut faire Benoît Hamon et celles de Yannick Jadot. On voit qu'il y a des ajustements, on n'est jamais toujours d'accord, que c'est une bonne nouvelle. Et puis je remarque aussi quand même que même malgré les propos de Jean-Luc Mélenchon, enfin. Vous avez jamais eu, je pense, dans l'histoire de la Ve République, 3 candidats de gauche qui ont des programmes aussi proches. Voilà. Mmh. Et en face, on a Marine Le Pen et François Fillon, qui sont quand même des candidats pas anodins à droite et à l'extrême droite. Donc je pense qu'il y a une occasion historique de faire l'union de la gauche. J'espère qu'on y arrivera, y compris avec Jean-Luc Mélenchon.
Et voilà, mais alors apparemment, Jean-Luc Mélenchon, sauf si vous vous rangez derrière lui, peut-être, hein, je ne sais pas. Benoît Hamon peut se ranger derrière Jean-Luc Mélenchon ?
Je pense qu'aujourd'hui, il a une surface politique plus importante que celle de Jean-Luc Mélenchon, notamment parce qu'il est plus central à gauche et que c'est important quand on veut gagner une élection présidentielle.
Mais vous savez qu'il ne viendra jamais, Jean-Luc Mélenchon.
Mais écoutez, moi, je sais pas. Je vois qu'il met des conditions qui sont effectivement difficiles. Donc voilà. Après, la porte restera toujours ouverte, mais il faut avancer, effectivement.
Jannick Halimi.
Oui, alors là, je suis pas tout à fait d'accord avec madame quand elle dit qu'il n'y a jamais eu autant de convergence et de points communs entre des candidats de gauche. Alors, je veux pas refaire l'histoire, mais je veux juste faire une photographie de ce qui existe aujourd'hui. Quand même, quels sont les points communs entre Jean-Luc Mélenchon donc, et Benoît Hamon en matière d'Europe ? Il y en a un qui veut sortir de l'Europe, l'autre qui veut rester, qui à le changer. Quels sont les points communs entre quelqu'un dont la position est centrale avec le revenu universel, que rejette fondamentalement Mélenchon. Quel est le point commun en matière de politique étrangère quand on voit Mélenchon se prétendre, enfin se positionner comme étant pro-Poutine, pro-Russie, alors que Benoît Hamon, ce n'est pas le cas. Il n'a pas terminé avec ça. Mélenchon
mais il est un peu revenu de quand même
Non, je vous assure que pour l'avoir interviewé récemment,
mais quand même, les programmes sont extrêmement proches sur un certain nombre de sujets.
Quand il y en a un qui est pour l'Europe et contre l'Europe,
Le fait que la question sociale et la question écologique doivent être traitées de manière commune, c'est quelque chose qui n'était pas forcément présent à gauche et au sein du Parti Socialiste dans le passé, qui l'est aujourd'hui. Je pense qu'il y a aujourd'hui des convergences qui sont certaines. Après, il faut discuter. Bien sûr, il n'y a pas d'accord sur tout.
Juste une chose, André Bercoff, aujourd'hui, Benoît Hamon est en campagne. Il y a certains parlementaires socialistes qui trouvent un peu diesel, c'est-à-dire sur le départ, etc., qui mettraient un peu de temps. Son agenda, il lui reproche de ne pas avoir un agenda très rempli. Comment vous la trouvez, vous, le début de campagne de Benoît Hamon? Est-ce que finalement, on le voit assez, Benoît Hamon? Est-ce qu'on l'entend assez?
Écoutez, moi j'ai trouvé que Benoît Hamon est dans le genre langue de bois socialiste, il est parfait. D'accord. Je trouve que c'est vraiment une espèce de champion magnifique. Le revenu, par exemple, pour moi, enfin il y a quand même quelque chose, le revenu universel quand même, qui est une farce tragicomique. 400 milliards à dépenser par an. On les trouvera, mais on s'en fout.
Non, pas par an.
On est à 400 milliards par an. Yannick Halimi. Je vais vérifier. Deuxièmement, la France est endettée de 2000 milliards. Et j'ai adoré quand Benoît Hamon a dit, mais la dette économique, ce n'est rien par rapport à la dette écologique. Et ça, c'est beau. C'est vrai que c'est magnifique. C'est vrai qu'on est dans l'environnement le plus formidable.
On a des priorités différentes. Mais non, mais c'est sûr, on a des priorités différentes. Il y a des personnes qui ne parlent
pas. Il y a 6 millions de chômeurs.
Financière. Ce que Benoît Hamon, il dit, c'est qu'avec des banquiers, on peut négocier avec les banquiers, voilà. Mais la planète, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Voilà.
Mais vous négociez.
Et donc, c'est juste aussi simple que ça. Et donc, c'est juste mettre des priorités. Les deux sont peut-être dans la caricature. Vous pouvez être dans la caricature.
Laura Slimani, quels sont les autres?
Vous pouvez être dans la caricature, mais je ne suis pas dans la langue de bois.
Vous êtes dans la langue de bois totale. Les convergences de la gauche entre Mélenchon et Macron, langue totale. Entre Mélenchon et...
Non, mais juste un mot.
Juste un mot, quand même. Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que quand même, on a 7 millions de chômeurs, on a 2000 milliards d'euros de dettes. On a aujourd'hui les taux d'intérêt qui augmentent. Je suis heureux que vous me parliez de la planète, mais je vous assure qu'il y a des problèmes que les gens se passent.
Moi, je trouve qu'on est quand même dans une situation où on a des gens qui nous disent, et M. Bercoff, aujourd'hui, en est le parfait avatar, qui nous disent, en gros... On continue avec la baisse du coût du travail, on continue à essayer de réduire les dépenses publiques, on continue à polluer, on continue avec un système productif qui détruit nos écosystèmes, et puis on verra bien, dans 50 ans, on verra bien si nos enfants pourront faire des enfants, on verra bien la planète dans laquelle on vivra, on verra bien, mais je ne suis pas une caricature, je vous parle, mais non, mais ce n'est pas un argument, monsieur Bercoff, pardon, mais ce n'est pas un argument que de dire vous êtes une caricature, je ne suis pas une caricature, je défends une vision différente de l'avenir que la vôtre, et laissez-moi le droit de le faire, et laissez le droit aussi aux personnes et aux centaines de personnes qui aujourd'hui rejoignent la campagne de Benoît Hamon, laissez-leur la liberté de défendre ce projet. Vous défendrez peut-être un autre projet, on verra les résultats de ces élections.
On va continuer à parler de Benoît Hamon, de son examen de passage qui n'est pas si simple finalement. L'info à 20h40, c'est Édouard Marguier.
Feu vert pour le candidat d'Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, pour ouvrir un dialogue avec Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Les électeurs écologistes consultés par Internet sont d'accord à près de 90% pour un projet de candidature commune à la prochaine présidentielle. L'affaire des soupçons d'emploi fictif dans la famille Fillon ne peut être classée sans suite, du moins pour le moment, selon le parquet financier qui a fait un nouveau point d'étape aujourd'hui. Le candidat de la droite dénonce un acte de communication qui n'apporte rien de nouveau. En pleine affaire Fillon, François Hollande a prôné l'exemplarité au plus haut sommet de l'État. Le président était en déplacement à Rennes. Il s'est interrogé sans cette exemplarité, comment donner confiance, comment appeler à l'effort, comment donner des perspectives à notre pays. Quelques tirs de gaz lacrymogène à Bobigny en Seine-Saint-Denis ce soir. La police a dispersé des manifestants réunis en soutien à Théo. Le jeune interpellé violemment par la police il y a 2 semaines à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Il est sorti de l'hôpital aujourd'hui. Des proches du jeune homme ont écrit sur les réseaux sociaux. Le combat continue. Le mariage entre PSA et Opel se précise. La ministre allemande de l'économie a déclaré aujourd'hui qu'elle s'attend à une fusion entre les deux marques automobiles. Fusion et non rachat, c'est le mot qu'elle a prononcé. Opel, la filiale européenne concerne de General Motors est actuellement en difficulté, le gouvernement allemand fera tout pour conserver les sites de la marque en Allemagne.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, c'est donc l'heure du dossier de candidature pour Benoît Hamon. Nous lançons comme ça voilà cette série où on passe au crible les programmes des candidats. Lundi, ce sera celui de Marine Le Pen, puis viendra ensuite Jean-Luc Mélenchon, normalement celui de François Fillon, hein, ça devrait arriver, Emmanuel Macron. Et demain, à 8h30, Jean-Michel Apathy recevra Benoît Hamon. Voilà pourquoi on en parle ce soir. Sylvain Courage, justement, la même question sur ce début de campagne de Benoît Hamon. Il y a eu une rencontre avec des parlementaires. On a vu des valsistes qui, de nouveau, se sont un peu réveillés face à Benoît Hamon, lui disant « ça ne va pas assez fort, ça ne va pas assez loin ». Est-ce que vous trouvez qu'il est en décalage un peu, Benoît Hamon, par rapport à ce début de campagne ?
Ce qui est frappant, c'est qu'il est très cohérent. C'est-à-dire qu'il n'a pas varié son discours. Effectivement, il y a les impatiences de l'aile droite du Parti Socialiste qui disent quand est-ce qu'on compte, quand est-ce qu'on pèse sur le projet. Et on a l'impression qu'il les tient un peu à distance et qu'il essaye de rassembler. Alors, on voit que ça marche avec Jadot, et siphonner un petit peu l'électorat de Mélenchon, qui a bien compris la manœuvre, le baiser qui tue, donc il a dit « je ne veux pas de bisous ». Mais donc c'est assez stratégique, mais c'est vrai que sur le plan de médiatique et aussi des meetings, pour l'instant, c'est plutôt calme. Mais il a bien réussi l'atterrissage, au sens où il ne s'est pas désuni, il reste sur sa ligne, et finalement, les sondages, pour l'instant, lui donne un résultat qui lui permet d'avoir quelques espoirs de faire mieux que figurer.
Juste une chose quand même, Laura Simonnier, c'est vrai qu'on se posait des questions de savoir si Benoît Hamon allait pouvoir réunir autour de lui finalement tout le monde, tout le parti socialiste. Et il y a quand même une question qu'on s'est posée, c'est là hier, il y a le CETA qui a été voté par le Parlement européen, donc cet accord commercial entre le Canada et l'Union européenne. Benoît Hamon est contre et dans son équipe, il y a Matthias Fekl. Alors Matthias Fekl qui est donc le secrétaire d'État au commerce extérieur, qui a négocié pour la France ce CETA et donc qui est pour. Comment, justement, ces deux personnes peuvent s'entendre sur un projet, par exemple sur l'Europe, sur des choses comme ça?
Bon, Matthias Fekl, il a défendu la position de la France, qui est la position aussi de François Hollande, qui est la position d'un gouvernement. Bon, voilà, moi, je ne suis pas dans sa tête. Je sais qu'il a dit très clairement que le TAFTA, c'était non. Par ailleurs, je relève aussi que tous les députés socialistes européens, quelle que soit leur affiliation proche de Hollande, PRG, proche de Benoît Hamon, proche d'un tel ou d'un tel, d'Arnaud Montebourg, par exemple, ont tous voté contre. C'est-à-dire qu'il y a une position aujourd'hui parlementaire de la France qui était de voter contre ce traité. C'est cohérent avec ce que porte Benoît Hamon. Matthias Fekl, je pense qu'il a eu des paroles extrêmement justes sur le TAFTA. Il aurait certainement dû aussi s'opposer au CETA, mais je pense que c'est pas le seul, à prendre la décision. Il représentait dans ces négociations la France et la position du gouvernement. Ça n'aurait pas été mon choix, c'était pas le choix de Benoît Hamon. Bon, après, il a beaucoup de choses à apporter à cette campagne. Et l'objectif, c'est d'élargir. Et encore une fois, d'élargir avec les personnes qui souhaitent contribuer à la victoire de Benoît Hamon. Mais en même temps, tout en faisant en sorte que Benoît Hamon reste dans son couloir de nage. Mais on n'est pas. Enfin, je sais, mais c'est quand même. Bien sûr que tout le monde ne va pas tout d'un coup être complètement d'accord avec tout ce que Benoît Hamon a défendu pendant la primaire, alors qu'un certain nombre de personnes s'y sont opposées. Donc voilà, on ne demande pas à tout le monde d'être d'accord à 100%. On dit il y a un chemin et c'est plutôt par là qu'on veut aller. Et oui, on a besoin de toutes les énergies.
La question qu'on peut se poser également, Jeanne Calimi, même si Benoît Hamon était frondeur pendant ce quinquennat, est-ce qu'il va devoir quand même, mine de rien, assumer une partie quand même de ce quinquennat de François Hollande? Est-ce que, parce qu'il est quand même candidat du Parti Socialiste qui était au pouvoir?
Écoutez, en tout cas, il l'assume en partie. Il l'a déjà dit, il ne veut pas être traître à la nation. Il veut rester loyal, même si de toute façon, il a quitté, enfin, contrairement à Montebourg, pardon, un peu à la suite de son plein gré le gouvernement Hollande, excusez-moi, en 2016, mais peu importe. Non, le problème, donc oui, il va, y a pas de problème de ce côté-là. Il a un côté loyal, mais d'un autre côté, encore une fois, il a été frondeur. Et là, moi, je veux bien qu'on essaie d'en parler comme le futur ministre Mitterrand qui arrive à faire une synthèse performante et non pas une synthèse molle qui s'éparpille un peu partout comme celle de François Hollande. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il hérite d'abord d'un parti socialiste, pardon madame, complètement fracturé. Et sa victoire surprenante importante, alors peut-être pas le jour de sa victoire, parce que les sondages le portaient depuis quelques semaines, a laissé sonner une partie du Parti socialiste, notamment les valsistes. Et les signaux que semble donner Benoît Hamon, notamment au regard de la composition de son équipe de campagne, est quand même extrêmement aubriste. Il y a très très peu de valsistes. Et je termine juste d'un mot. On parlait tout à l'heure de Nicolas Sarkozy qui avait dû venir un petit peu à la rescousse de Fillon. Là, on a vu quand même Benoît Hamon aller chez Hollande. Hollande joue aussi dans la coulisse. Enfin, et il essaie de faire...
Il est président de la République,
pardon. Oui, mais enfin, non, mais justement, il est président de la République. Il n'est plus premier secrétaire du Parti socialiste.
Mais enfin, il est président de la République. Il est toujours au sein du Parti socialiste.
C'est normal. Juste président de la République.
Le candidat à l'élection présidentielle.
Benoît Hollande, François Hollande n'a pas reçu, me semble-t-il, ni Macron. Non, je ne dis pas que ça choque.
S'il vous plaît, on n'entend pas quand on parle ensemble.
Je termine. Je ne dis pas que ça choque. Je dis qu'il a été obligé, François Hollande, de venir à la rescousse de Benoît Hamon pour lui expliquer qu'il fallait faire quand même quelques compromis dans son programme et dans son équipe.
Il y a une question également qu'on peut se poser comme n'importe quel autre candidat, c'est également l'ancien ministre de l'Éducation, selon une étude OpinionWay, a majoritairement séduit lors du vote de la primaire de la Belle Alliance Populaire des urbains diplômés, âgés de 35 à 65 ans, plutôt salariés, et dont le cœur pencherait pour la gauche radicale. Est-ce qu'il peut toucher finalement les couches françaises les plus populaires?
Oui, attendez, je crois qu'il le peut tout à fait. D'abord, je voudrais dire une chose à Laura Slimani. J'ai jamais pensé que c'était une caricature. Alors, si ça a été le cas, je vous présente mes excuses.
Elles sont acceptées. Deuxièmement,
est-ce qu'il peut devenir populaire?
Voilà. Écoutez, tout est possible aujourd'hui, mais je crois qu'il y a vraiment, il faut tenir acte de deux choses, tenir compte de deux choses. D'abord, c'est vrai que non seulement le Parti socialiste, comme disait Yannick, est fracturé, mais je crois que le Parti socialiste est dans un état effectivement d'agonie. Ce qui va paraître aujourd'hui, ce n'est plus le Parti socialiste d'antan. Ce sera autre chose. Deuxièmement,
on le voit partout en Europe, d'ailleurs.
Comme on le voit absolument partout en Europe. Et ce n'est pas par hasard, d'ailleurs, que les favoris aujourd'hui, ce sont ceux qui sont hors primaire. Aujourd'hui, on verra ce qu'il y aura. Deuxièmement, Benoît Hamon peut parfaitement réunir un certain nombre de la gauche radicale, de gens de la gauche radicale. Maintenant, c'est vrai que Mélenchon et Hamon, il y en a l'un des deux qui restera sur le carreau, c'est clair, à la fin. Donc, on verra qui. Mais ils ne peuvent pas
peut-être les deux être dans le même marigot. Pour vous, justement, Benoît Hamon, par rapport à son programme, quand il parle de revenu universel, de taxer les robots, est-ce que finalement, il peut être populaire?
Ça a séduit parce que c'est complètement nouveau. Plutôt que de revenir sur l'éternel débat entre le capital et le travail, qui est le débat de la gauche, il a dit il faut procéder autrement parce que le travail va changer, va progressivement s'éteindre, et donc il faut trouver une nouvelle façon, un nouveau rapport entre le capital et le travail. Et donc il a fait une percée conceptuelle. Après, c'est comme toutes les percées conceptuelles, ça peut paraître irréaliste parce que pour l'instant, on vit quand même dans une économie qui n'est pas exactement celle que Benoît Hamon nous décrit. Donc voilà, c'est pour ça que il suscite un intérêt, un espoir. Mais est-ce que ces solutions peuvent s'appliquer à la France de 2017? C'est pas sûr.
Laura Slimani.
Non, mais vous dites que c'est pas l'économie telle qu'elle existe aujourd'hui. Mais l'économie telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est quoi? C'est des millions de chômeurs qu'on n'arrive pas à résorber. On n'arrive pas à résorber cette masse de chômeurs malgré toutes les politiques de baisse du coût du travail, de machin qu'on essaye de faire, avec globalement peu de résultats. C'est un environnement et des écosystèmes qui sont en train d'être détruits à vitesse grand V. C'est des personnes et énormément de personnes qui sont mal au travail, avec des burn-out, avec des suicides, avec du mal-être. Et donc, c'est des questions auxquelles Benoît Hamon apporte des réponses en donnant plus d'autonomie aux salariés, par exemple, comme le revenu universel pourrait permettre de le faire.
En tout cas, rendez-vous demain à 8h30 sur France Info pour avoir la réponse à toutes ces questions autour Jean-Michel Apathy et Fabienne Synthèse. Benoît Hamon sera donc dans nos locaux. L'info à 20h50, c'est Édouard Marguier.
Théo est rentré chez lui, il a quitté l'hôpital. Le jeune interpellé violemment il y a 2 semaines à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Sa famille précise qu'il a besoin de repos. Ses proches sur Twitter écrivent « On continue le combat ». Les autorités ont dispersé un rassemblement tendu ce soir à Bobigny. Il n'y a pas eu de dégâts. François Fillon se retrouve encore un peu plus sous pression après les dernières déclarations du parquet financier qui affirme qu'en l'état, l'affaire des emplois fictifs ne sera pas classée sans suite. Le candidat de la droite dénonce un acte de communication qui n'apporte rien de nouveau. Il n'y a ni poursuite ni mise en examen. François Fillon dit s'en remettre au seul jugement du suffrage universel. Marine Le Pen pourra finalement tenir meeting dans le Jura. Le maire de la commune de Clairvaux-les-Lacs, près de Lons-le-Saunier, avait annulé la réunion pour des raisons de sécurité. Ce soir, le tribunal administratif de Besançon annule cette décision qui porte atteinte aux libertés fondamentales. Le meeting aura lieu vendredi soir. Les États-Unis brandissent la menace de l'arme nucléaire face à la Corée du Nord. Ils sont déterminés à défendre la Corée du Sud et le Japon, a affirmé aujourd'hui le secrétaire d'État américain. Pyongyang a tiré un missile balistique le week-end dernier. Le roi du biathlon doit se contenter de la médaille de bronze. Martin Fourcade termine à une décevante 3e place de l'épreuve individuelle aux mondiaux de Horfilzen en Autriche. La faute à 2 tirs ratés, il n'y a pas mort d'homme, a réagi le catalan. Lowell Bailey crée la surprise à 35 ans, il devient le premier américain champion du monde de biathlon.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, il nous reste très peu de temps pour parler d'un sujet ô combien essentiel, mais on va essayer de le traiter sous l'angle médiatique, puisque TF1 et Europe 1 ont obtenu une interview de Bachar el-Assad, et oui, le président syrien, une nouvelle interview, il y en a presque une chaque mois. Dans cet entretien, Bachar el-Assad critique sévèrement la France et sa gestion de la crise syrienne, l'accusant de soutenir les terroristes depuis le début du conflit. Il rend hommage à Vladimir Poutine, attend un signe de Donald Trump et nie toute torture d'opposants, comme le rapporte régulièrement Amnesty International. Bachar el-Assad explique ne pas avoir recours à la torture, mais étrangement se tait sur les bombardements chimiques. Le dictateur de Damas campe sur ses positions et cible encore et toujours François Hollande. Bachar el-Assad.
Hollande a même récemment déclaré que cela avait été une erreur de ne pas avoir déclenché la guerre en 2013. Ce sont eux qui ont envoyé de l'armement à ce qu'ils appellent des groupes modérés et qui sont en fait des terroristes. Ce sont eux qui l'ont dit, pas moi. Les Américains ont tenu les mêmes propos, les Français aussi. Alors si vous revenez aux déclarations de vos dirigeants durant ces 2, 3 ou 4 dernières années, vous trouverez bien plus d'une déclaration faite par des responsables français. Ils s'accusent eux-mêmes.
Voilà, Bachar el-Assad donc sur Europe 1 et TF1. Yannick Halimi, est-ce que pour vous, voilà, en tant que journaliste, que c'est encore important d'interviewer Bachar el-Assad?
Bah oui.
Oui.
Écoutez, oui. C'est vrai que ça peut relever de la polémique, mais enfin bon, quand on a quelqu'un qui est aussi central, après tout dépend des questions bien évidemment que vous nous posez, et ça je ne doute pas du professionnalisme des journalistes. Je me souviens juste d'une anecdote entre guillemets qui était arrivée dans les années 90 au temps où Jean-Marie Le Pen, président du Front National, commençait à percer. Et il y avait une sorte de débat entre Anne Sinclair et Jean-Pierre Elkabbach pour savoir s'il fallait inviter à l'époque Jean-Marie Le Pen dans des émissions. Anne Sinclair, qui avait été traitée de charcutière cachère par Jean-Marie Le Pen, refusait de l'inviter, et Jean-Pierre Elkabbach disait non, il faut l'inviter. Voilà, donc moi, je réponds en partie à votre question. Ouais. Je ne peux pas ajouter quelque chose sur le Parti Socialiste.
Ah, non, c'est trop tard.
D'accord. Très bien, on va tout mélanger.
La prochaine fois,
d'accord.
Vous revenez régulièrement. André Bercoff.
Oui, simplement, je voudrais dire deux choses, parce que ça relie non pas sur le Parti Socialiste, mais il faut faire attention à quelque chose, c'est le déni de réalité. Et on a vraiment en France très 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 souvent le déni de réalité. Que Bachar el-Assad soit tout ce qu'on veut sauf un ange, c'est clair. Ce qui est le problème terrible, c'est que vous avez dans toute une partie de ces pays le choix terrifiant entre les dictatures militaires et l'État islamique. Et c'était ça qui se posait. Parce que c'est vrai que quand il dit que Jabhat al-Nosra et compagnie, que Fabius défendait en disant ils font du bon boulot, Jabhat al-Nosra était aussi intégriste que Daesh. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Le problème
c'est qu'on se demande aussi qui a créé tout ça. Ouais, et à la base, il y a quand même aussi Bachar el-Assad. On sait très bien qu'il a joué tous les rôles. Vous le savez
mais
très
mais
bien.
Attendez, c'est aussi en laissant pourrir la situation, pardon, mais qu'on a laissé des groupes extrêmement dangereux et djihadistes et islamistes prendre effectivement le leadership sur l'opposition à Bachar el-Assad. Mais il y a eu très longtemps, et il y a encore d'ailleurs, même s'ils sont de moins en moins nombreux, des démocrates, des gens qui demandaient à être soutenus, qui n'ont pas été soutenus par la communauté internationale. Alors même pour le coup que François Hollande l'avait demandé, et donc je trouve qu'aujourd'hui c'est ignoble. Moi voilà, ces propos me choquent, j'en ai marre d'entendre des interviews de Bachar el-Assad. Alors, je comprends que vous faites votre métier de journaliste, qu'il faut interviewer tout le monde. Moi je trouve que c'est compliqué de mettre les propos de Bachar el-Assad en exergue comme ça, quand il dit de telles choses et quand il massacre son peuple, qui bombarde des écoles, qui bombarde des hôpitaux et qu'il est quand même accusé d'attaques aux armes chimiques qui constituent des crimes contre l'humanité pour le coup.
Sylvain Courage, pour vous, c'est important encore aujourd'hui d'y aller. C'est vrai qu'on a un peu l'impression d'entendre malheureusement, je ne dis pas ça pour nos confrères, mais d'entendre toujours un peu la même chose, puisque lui, il défend sa position. Voilà, il n'y a pas de contradicteur.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui...
Comment les journalistes le sont, Jean-Mathieu, tout le monde.
Mais la seule chose qu'on lit aujourd'hui, c'est le compte-rendu. On ne voit pas les questions des journalistes.
Mais si, on voit les questions,
Juste un mot, quand le monde a interviewé
Erdogan, personne n'est allé dire aux journalistes du Monde comment vous n'avez pas eu honte d'interviewer Erdogan. Ils ont fait 4 pages sur Erdogan, qui est au moins aussi dictateur que Bachar el-Assad.
Juste André Berkoff, c'est vrai que l'élection de Recep Erdogan n'a rien à voir, c'est pas la même chose, c'est son comportement, mais l'élection elle-même n'a rien à voir avec celle de Bachar el-Assad qui est nommé par son parlement par applaudissement, quoi.
Donc demander aux chrétiens d'Orient ce qu'ils en pensent.
On peut l'interviewer, mais ce qui serait important, alors je sais pas comment on fait, mais c'est d'expliquer le contexte et le sens de ce qu'il dit, pourquoi il dit, pourquoi il s'en prend à Hollande, pourquoi aujourd'hui, parce que aujourd'hui malgré tout il est un peu remis en selle, pourquoi il veut faire entendre que c'est la France et les États-Unis qui auraient créé ce conflit. Je pense que ce qui manque, c'est l'appareil pédagogique pour interpréter ces propos, parce que sinon ils sont intéressants.
Il y a juste une question. C'est terminé.
Quand l'Arabie Saoudite bombarde enfants et femmes au Yémen.
André Berkoff, c'est terminé.
Les manifestations.
C'est terminé. Ça va se terminer. De toute façon, on va couper un moment le micro. Voilà, les informés. Merci beaucoup, Laura Simani, d'être passé ce soir aux informés de France Info. Merci à André Berkoff. La une de l'Obs cette semaine.
On voit Macron et il y a une question. Lui, président, avec un point d'interrogation.
Très bien. Et la une du Parisien aujourd'hui en France demain.
C'est François Fillon. Mais c'est pas lui président, point d'interrogation, c'est face à la justice.
Face à la justice, très bien. À trouver demain dans les kiosques, entre autres. Allez, il est l'heure pour nous de retrouver Jérôme Calais. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous.
Pour le Classico, quel est le programme ce soir?
On va voir si vous êtes vert ou rouge, Jean-Mathieu. Je sais pas quelle est votre couleur préférée.
Un peu violet, mais...
Un peu violet. Vert. Un peu pour tout le monde. Voilà. Vert. Alors, pour les verts de Saint-Etienne qui jouent à Manchester United ce soir, les Red Devils, d'où ma question. On sera nous aussi supporters des verts. Le match commence dans 10 minutes. On va le vivre avec un ancien vert, Pierre Repellini, qui avait disputé la grande finale de 1976. Tout le monde s'en souvient. Et puis, nous serons également avec une championne du monde de ski, Tessa Worley, avec nous dans 15 minutes, en direct dans le Classico.
Et voilà, le Classico, un programme riche et varié, comme tous les soirs d'ailleurs. Votre débat sport à suivre dans quelques minutes sur France Info.